bande originale, bravo. Soyez les bienvenus. Avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour.
Tom Villa.
Bonjour.
Pierre-Emmanuel Barré.
Bonjour tout le monde.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Bravo Daniel Beauclavier. C'est notre invité, Guillaume Canet.
Non.
Bonjour.
Ça va Guillaume?
Ça va super.
Soyez le bienvenu.
Merci. Et toi Nagui, comment ça va?
Mais je vais extrêmement.
On te demande jamais.
Je vais extrêmement. C'est gentil.
Oui,
c'est gentil.
C'est parce qu'on s'en fout qu'on te demande.
C'est
pas.
Gentil. Non mais je suis particulièrement ému de recevoir.
Tant de sollicitude.
Guillaume Canet, parce que c'est vrai qu'on reçoit, on reçoit beaucoup des comédiens de la nouvelle génération et pas suffisamment d'anciens comédiens.
Oh là là.
C'est le traître qui fait ça quand il est en train de boire une gorgée.
J'ai apporté mon thé vert.
Comme une vieille.
Est-ce que vous voulez une petite laine, Guillaume?
Ça va. Si vous la cherchez, j'ai votre bouillotte.
Si on peut baisser juste un peu la clim, je m'y habituerai jamais.
Vu la moyenne d'âge des auditeurs de France Inter,
13 ans,
ils sont ravis d'avoir Guillaume Canet, dont ils ont suivi toute la carrière. C'est, évidemment, on est totalement dans l'esprit du film Rock'n'Roll. Toute la carrière, évidemment.
Certains l'ont vu naître.
parce que vous avez bien compris, enfin, j'ai peur que vous n'ayez pas compris, Tom, pourquoi Guillaume Canet est notre invité.
Mais si, notre invité ce matin vient nous présenter un film sur sa vie, mais qui n'est pas vraiment sa vie, puisque c'est un film.
Si, c'est
donc
on va
dire que c'est plutôt un film sur « Et si ma vie était un film ?» Ouais, non, j'ai rien pigé, Nagui. Ok, j'ai rien pigé. Donc, vous venez nous présenter Rock'n'Roll. Donc, c'est l'histoire de Guillaume Canet, 43 ans, réalisateur et acteur, marié à Marion Cotillard. Putain, on se dit, qu'est-ce qui a pu vous inspirer ce pitch? C'est dingue. Où vous allez chercher toutes ces idées?
Un fantasme.
Et Guillaume Canet pète un plomb après qu'une jeune actrice lui dise qu'il est vieux, qu'il a perdu son sex appeal et qu'il est pas très rock'n'roll. Alors, ce qui m'amène à cette question, qu'est-ce qui est rock'n'roll et qu'est-ce qui n'est pas rock'n'roll en 2017? Déjà, un mec qui vient de dire en 2017, moi, je suis rock'n'roll. C'est qu'il est pas rock'n'roll. Ça, on peut en être sûr.
Ça, c'est sûr.
Sachant qu'être rock, c'est être à contre-courant et en marge de la société. Mais comme aujourd'hui, tout le monde est un peu rock'n'roll, ne pas être rock, c'est être rock. Du coup, on peut dire Christine Boutin est rock'n'roll. Et fait chier tout le monde. Voilà. Par exemple, bouffer du gluten, c'est rock'n'roll en 2017. Bouffer de la viande, c'est même punk. Être abonné à Canal+ en 2017, c'est rock. Madonna qui monte son cul en 85, c'est rock'n'roll. En 2017, c'est pathétique.
Non, c'est frippé.
C'est plié. Non, ça n'a rien à voir.
Arrêtez. Vous verrez quand vous aurez son âge.
Il est comment votre cul à vous?
Il est impeccable.
Poilu.
Je l'ai repassé ce matin.
On l'appelle le velours côtelé, Daniel. Faire danser avec les stars quand on est une vraie star, ça c'est rock. Aller à un concert de Kenji sobre, c'est rock. Aller à un concert de Kenji bourré, c'est très rock. Être une femme de député, aller bosser tous les matins, ça c'est vraiment fou. Et puis faut pas se fier au physique aussi, avoir, je sais pas, un blouson en cuir, pousser des gueulantes et faire des albums que personne n'écoute, c'est ça être rock. Christophe Andelade doit être très très rock alors.
Sans doute.
Et puis il y a un âge où tu peux plus être vraiment rock'n'roll. Ça veut dire quoi être rock à 70 ans, manger du sel quand tu fais de l'hypertension, pisser dans un gobelet les yeux bandés, fumer par sa trachéotomie, voilà, ça c'est rock. Alors Rock'n'Roll, c'est un film qui démarre comme un documentaire, qui finit un peu comme un épisode de Confession intime. Alors voilà, franchement, ça part tellement en couille. Il y a un moment où je me dis, putain, il y a Pascal le grand frère qui va débarquer.
Ça part en couille, c'est une bonne vanne par rapport au film.
Non mais c'est vraiment le... On peut pas, voilà, il y a une partie qu'on peut pas dévoiler, on peut pas divulgâcher la deuxième partie. Le seul truc que je peux dire, c'est qu'il y a un moment où je me suis dit, putain, il y a Benjamin Castaldi qui joue dans le film, et en fait, pas du tout. Bref, je sais pas si j'ai tout compris, mais si vous aimez Benjamin Castaldi, et les blousons au cuir. Ce que j'ai compris, c'est que Rock'n'Roll, c'est un très très bon film.
Absolument, merci Tapila.
La bande originale.
Là, il faut avoir vu le film pour comprendre certaines vannes de Tom. On ne va pas divulgâcher, pour reprendre cette expression québécoise, ce qui se passe dans le film, mais c'est vrai que le point de départ...
Bah, un petit peu quand même, mais bon, c'est pas...
Non, on l'a pas fait. Non, on l'a pas fait. On l'a pas fait et on va faire attention de surtout pas le faire. Ouais.
Mais de toute façon, je peux pas interdire quoi que ce soit, les gens font ce qu'ils veulent.
Non, mais nous, on veut garder le plaisir.
J'enseigne! Non, c'est la manière de voir le film et puis de savoir comment on a envie que les gens découvrent le truc. Moi, c'était simplement pour le plaisir de garder des petits secrets pour les choses. Mais aujourd'hui, il faut tout dire, en fait. On s'en raconte. Même pour un
je suis pas sûr qu'il faille
un
tout
mot
dire.
Drôle, il faut tout dire.
Je suis pas sûr qu'il faille tout dire.
Ouais. Non, mais ça résume très bien le film, en fait, ce qui se passe. C'est qu'on en parle avant en disant ce serait bien de pas trop en parler. Et puis, on se rend compte que même pour être drôle, on a besoin de
on
tout
a,
dire.
On n'a rien dit.
Non, on n'a rien dit. C'est une manière de dire les choses.
Je sais, vous saignez. On va vous apporter.
Tout va bien.
On va vous apporter un mouchoir, vous inquiétez pas. Un petit mouchoir. Bon, ok, la vanne, il faut que je la fasse.
C'est vous, pas vous êtes mon idole, Nagui.
Donc, sortez. Donc, Guillaume, moi, ce qui m'intéresserait, c'est ce point de départ, c'est-à-dire de ce regard sur l'âge, et ce regard masculin sur l'âge, parce qu'il y aurait pu y avoir aussi un regard féminin sur l'âge et sur le regard du public.
Et là, de c'est ce jamais comédien. Le cas, c'est jamais le cas sur les hommes. Donc, ça, c'est inédit, totalement inédit.
C'est parti de quoi? C'est arrivé de. À quel alors, moment vous avez dit, je vais partir
alors, c'est parti de plein de choses. D'abord, je pense qu'il y a eu cette interview qui s'est réellement passée, en fait, où cette jeune journaliste m'a balancé que finalement,
vous n'étiez pas de la même
pas très,
génération.
Très rock, et qu'il y avait une jeune génération qui arrivait, et qu'aujourd'hui, ma vie avec ma femme, mon fils, les chevaux, tout ça, c'était pas très sexy. Et qu'il fallait peut-être penser à être un peu plus sexe, drogue et rock'n'roll.
Donc, ça dépend ce qu'on fait avec les chevaux.
Voilà, c'est ça, exactement. Et là, je suis parti dans une espèce de justification pourrie en train de dire.
Pendant l'interview.
Ouais, comme dans le film, à lui dire, mais moi, je joue de la guitare électrique depuis 14 ans. Je commençais à me justifier, c'était pathétique. Et en sortant de là, je me suis rendu compte que
imaginez que vous ayez eu le recul en le disant, de dire mais là je suis pathétique en train de dire mais non je fais de la guitare, j'ai un jean et des
voilà,
bottes.
C'est ça. Sûr, ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est de dire je suis rock quoi finalement quand même. Et là c'est vrai qu'on se rend compte que l'on l'est pas du tout. Et donc en sortant de là, j'ai pensé à tout ça et je me suis dit ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un film sur l'image que les gens ont de nous. Quand je dis de nous, c'est pas de moi, Marion et moi, c'est de dans la vie tous les jours on
sur le l'image monde de, que l'on le a monde de l'image et la
voilà,
réalité
l'image que l'on a de soi-même dans cette société qui se filme, qui prend des selfies toute la journée, qui est très recentrée sur elle-même. Et je me suis dit qu'il y avait un truc à faire là-dedans, parce que c'est vrai que le jeunisme, voilà, il y avait tous ces thèmes qui venaient rejoindre ça. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être rock en sortant de là? Et je me suis dit, mais être rock aujourd'hui, c'est quoi? C'est être libre d'être qui on a envie d'être. Aujourd'hui, on nous oblige absolument à rentrer dans une norme, à être musclé, à ressembler aux acteurs américains, à avoir un truc. Et je me suis dit, et je suis parti là-dedans dans un grand délire de comédie, parce que c'est quand même.
Alors pourquoi choisir la comédie? Parce que ça pourrait être aussi un drame, comme il y avait eu le film de Patrice Lecomte sur cet animateur de radio qui rappelait beaucoup d'animateurs d'Inter, puisque on sentait
pas. Il y en a qui l'ont mal pris d'ailleurs.
Le jeu des 1000 euros, c'était une référence.
Mais parce que j'avais envie de.
Avec un animateur en fin de carrière, avec la loose.
Parce que j'avais envie d'une vraie dérision en fait. Je trouve qu'aujourd'hui, on est, moi j'ai été par exemple confronté à une certaine presse qui pendant des années s'est fait un plaisir de parler de ma vie avec j'imagine beaucoup d'amusement pour eux en tout cas. Et à un moment je me suis dit j'ai envie de m'amuser moi aussi de ça, j'ai envie de m'amuser aussi
autour
de mon image.
Donc,
ouais. Ouais, et puis de m'amuser de ce que les gens imaginent de nous, les conneries que j'entends à longueur de journée sur la tour d'ivoire sur laquelle on vit, sur le côté on vit aux États-Unis, Marion ne fait pas la cuisine, elle mange que lyophilisé, ou alors j'imagine elle se nourrit en perf. On a tout un truc. Et j'avais envie de raconter des trucs qui font partie de notre vie, comme le retour des Césars où on rend les bijoux après la cérémonie. J'avais envie de parler de toutes ces choses-là parce que ça me fait marrer et parce que je trouve que aujourd'hui on porte beaucoup d'importance à des choses qui n'en ont pas réellement besoin.
Alors vous êtes allé très loin. Ce film, mais prenez-le bien. J'allais dire ne ressemble à rien. Ce film ne ressemble à aucun film. Je ne vois pas, et pourtant on est cinéphile, on a mangé des kilomètres de pellicules, sûrement moins que vous parce que vous êtes un passionné de cinéma, mais pour avoir vu énormément de films dans ma vie, je n'ai jamais vu un film comme ça, aussi déjanté, avec une vraie prise de risque de votre part. Alors là je le dis sincèrement, j'ai presque envie de dire d'homme à homme, c'est-à-dire que vous jouez avec votre image au point de l'égratigner. Ouais, c'est ça. C'est se retrouver là aujourd'hui torse nu devant une caméra, c'est super risqué pour votre carrière, mais vous le faites.
C'est-à-dire que vous n'y allez pas avec le frein à main, parce qu'en fait le problème d'une comédie, je trouve souvent, c'est que soit elle est un petit peu comme ça timide, elle essaime comme ça des pistes et elle s'aventure mais pas trop loin. Là au moins on a la satisfaction de se dire il y va vraiment, il joue le jeu à fond, à tel point que moi en regardant le film je me demandais ce qui relevait du fantasme et du stéréotype, et ensuite des parce que j'imagine que vous avez dû vous marrer à faire ça en glissant des petites allusions à des références réelles que vous partagez avec toute la bande que vous réunissez, parce que c'est aussi un film choral de bande.
Ouais. C'est mon entourage.
Mais on pense aussi à Philippe Lefebvre, on pense à Gilles Lelouch, qui sont vos potes, à Maxime Nucci aussi, évidemment à Marion. Il y a même vos propres parents.
Il y a mes parents, il y a mon producteur, il y a mon agent, il y a tout mon entourage.
De Mars Distribution, par exemple.
La seule personne qui ne soit pas vraiment de partie de ma vie, c'est mon fils et l'urologue. En fait, je n'ai pas un urologue attitré. En fait,
Vous en voulez un, je vous donnerai
le mien. C'est tellement plus pratique.
Non, mais en tout cas, pour répondre à ce que vous disiez par rapport au fait d'aller loin dans le truc, j'ai vraiment pas eu de mal à ne pas nous mettre de limites, parce que aujourd'hui, on vit dans le mensonge. Alors, tout est dans le mensonge, c'est-à-dire qu'on est gouverné par des menteurs. On fait partie d'un.
Quand vous dites gouverné, c'est tous les hommes politiques.
Bah, la politique, tout. On voit bien quand même qu'il y a beaucoup de mensonges.
Vous visez uniquement ceux du gouvernement. On est gouverné. Vous parlez de ceux qui sont au gouvernement maintenant.
Pas que au gouvernement là maintenant. Je parle de la politique en général.
La caste politique.
Mais vous l'apprenez maintenant là.
Quoi?
Non, mais vous le savez comme moi quand même que on raconte beaucoup de conneries.
Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est juste la précision.
On est
gouverné.
Ah oui, non. Quand je dis gouverné, on est gouverné. Je parle depuis des années et des années. Je parle pas de là, du dernier quinquennat. Je parle de depuis très 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 longtemps. Dans l'histoire de la République, on est habitué et tellement habitué aux mensonges
d'État,
mais pas que dans la politique, dans la vie, dans la publicité, dans la presse, dans plein de trucs. On raconte beaucoup de conneries. Et en fait, du coup, quoi qu'il arrive, quoi que l'on raconte, les gens se font leur propre idée. Et donc, si on peut raconter un truc en disant mais ça c'est vrai, vous allez voir, les gens diront non, mais il y a une part de faux. Si vous dites non, mais je vous raconte ça, c'est faux. Ouais, mais je suis sûr qu'il y a une part de vrai.
Donc, quoi qu'il arrive,
même dès qu'on fait une vanne, il y a toujours une base.
Donc là, en écrivant, je me suis donné cette liberté totale en me disant de toute façon. Il y avait aussi un phénomène très important aussi, c'est que j'avais passé une année et demie avant en me disant que j'allais arrêter le cinéma parce que j'étais sorti de Blood Ties, qui était un film que j'aimais beaucoup, qui s'était planté pour plein de raisons. Et je suis sorti de là en me disant, mais de toute façon, qu'est-ce que je vais faire de mieux? Je comprenais pas l'acharnement qu'il y avait eu sur ce film, parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Et derrière, je me suis dit, bon, bah, j'arrête. Et je pense que j'aurais jamais pu faire ce film-là avec l'insouciance, avec la légèreté. Si j'avais pas eu cette période-là où j'avais fait autre chose et où j'étais très heureux en faisant autre chose.
Donc il fallait symboliquement une claque.
Voilà.
Pour que d'un
et je me suis dit, ouais, mais c'est surtout la période après où je me suis dit, bon, bah, si vraiment je fais plus de cinéma, je vais pas non plus m'arrêter de vivre. Et du coup, quand j'ai fait le film, j'arrêtais pas de faire des vannes sur le plateau en disant, bah, c'est peut-être mon dernier, mais au moins je vais aller au bout.
Non, il faut préciser une chose. C'est extrêmement drôle. Il y a des scènes qui sont, pour moi, déjà cultes après avoir eu la chance de le voir avant sa sortie. Il y a des scènes, par exemple.
Il y en a plusieurs, je sais pas que tu penses.
Un peu de playback.
Elle est géniale.
Ça, c'est un moment.
Marion Cotillard, maquillée, vêtue à la Céline Dion, avec une sorte de réalisation de clip, mais magique.
Il y a le vent, il y a les voiles.
Pas Edith Piaf qu'elle aurait dû faire. C'est aussi Céline Dion.
C'est tellement.
Mais là, il y a un travail sur l'image qui est magnifique, Nagui. Je taquine Nagui parce qu'il parle de l'image à chaque fois.
Bah, l'image est belle, l'image est belle, la lumière est belle, il y a des effets qui sont bluffants. Non mais je le dis, il y a un travail de dingue.
Et un petit mot pour Marion Cotillard, parce que là en plus elle est pas là, donc je peux le dire librement, mais elle est exceptionnelle dans ce film.
Tu peux le dire librement, en plus il y a personne de sa famille.
Non mais c'est pas ça,
c'est pas vraiment une agression.
Non mais parce que tu sais quand tu le dis en face de la personne, ça fait de la gornerie. Non mais elle est vraiment exceptionnelle, je l'ai trouvée. Alors est-ce que c'est parce que vous l'avez particulièrement bien dirigée, vous avez écrit sur mesure pour elle, mais elle est complètement incroyable. On découvre une autre facette, je crois, de Marion Cotillard qu'on avait déjà vu dans des clips ou dans des sketchs un peu à l'américaine où on voyait
la parodie, la parodie qui est faite de Marion Cotillard. Elle travaille en permanence son rôle
pour Xavier Dolan, le futur film de Xavier Dolan,
et d'autres rôles en tout cas, mais elle les bosse à la maison, ce qui fait qu'elle bosse des accents, elle bosse des postures, elle bosse des démarches, et donc c'est la comédienne avec 4M. C'est-à-dire que ce soit au pieu, à la cuisine, dans la vie ou avec les enfants,
elle bosse,
elle est dans son rôle, dans son futur rôle, et ça fatigue le mari qui dit mais qu'est-ce que tu me fais encore. Non mais là je suis
les rôles à Oscar, je commence à avoir plein les couilles. Et d'ailleurs tellement plein les couilles qu'il va chez l'urologue.
Parce que justement il a mal à une des deux testicules en disant voilà, d'où l'expression j'en ai plein les couilles. Ça part de là aussi.
Voilà. Les gens sont en train de se dire il va être très très classe ce film. Mais non, mais en même temps c'était une manière aussi, les couilles, c'était la manière de d'exagérer le trait sur un film qui parle de jeu, quoi. C'est-à-dire qu'on commence sur un mec qui se met les couilles parce que on peut pas aller plus dans le narcissisme.
C'est ça.
Non, non, c'est extrêmement drôle. Alors, tous ont accepté facilement l'autodérision. L'autre scène culte, enfin, il y en a plusieurs dans le film, heureusement, c'est Johnny. C'est-à-dire la scène de vous qui allez voir Johnny, encore une fois,
Jérôme.
C'est Guillaume. C'est Guillaume Canet qui arrive chez Laetitia et Johnny. Et la mise en scène de Johnny en haut de son balcon.
Qui dit, on précise Johnny Hallyday.
Ouais, faut toujours préciser. Et qui dit, il y a Guillaume, Guillaume qui? Bah, Guillaume Canet, mon chéri. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Si, je t'assure, il m'a appelé. Enfin, la scène est à mourir de rire. Et après, il vous appelle que Jérôme. Et il y a beaucoup d'autodérision dans le comportement de Johnny. Il a
chanté les portes de nuit pénitentiaire dans des chiottes derrière des barreaux.
Et vous voulez tout raconter, vous, alors?
Non, mais je raconte pas tout. Mais non, mais il en reste. Hein.
Il en reste. Ah, il en reste pas mal, ouais.
D'ailleurs, on n'a pas mis grand-chose dans la bande-annonce à cause de ça aussi, parce qu'on voulait que les gens aient des surprises. Mais ouais, non, tout le monde a accepté l'autodérision, tout le monde a accepté de partir dedans, parce que je pense que c'est des gens qui sont touchés aussi par ça, qui ont envie aussi de parler de cette image qui renvoie et qui sont pas forcément qui est pas forcément l'image ils ont d'eux.
Il y a que Gilles Lelouch, il y a aucune dérision, mais vous m'avez dit qu'il n'avait pas accepté l'autodérision et qu'il n'en avait aucune dans la vie.
Non, mais il a pas beaucoup d'humour, hein,
c'est le problème. Ça, on le voit dans le film d'ailleurs.
Et pour aller dans le sens de cette autodérision là, il y a aussi toutes les photos que vous avez postées pour annoncer le film qui créent une forme de teasing assez incroyable, parce que ça fait un mois maintenant, un peu plus, que ça dure, et c'est complètement cohérent avec avec le message du film, en fait.
Et alors, ce qui est dingue, c'est que c'est parti
au départ. Pour ceux qui l'ont pas vu,
sur Instagram,
chacun casse l'image de l'autre.
Ouais. Et en fait, c'était parti. Moi, je voulais pas faire ça au départ. Je voulais faire un rock'n'roll challenge en postant des photos de trucs rock, de trucs pas rock. Et en fait, quand on arrivait le premier jour de la tournée, Marion s'est endormie dans le train, la tête en arrière, la bouche ouverte. Et elle venait de se remaquiller, mais bon, comme elle est très enceinte, elle dort souvent. Elle est un peu en narcolepsie, là, en ce moment.
Elle s'est endormie.
Et je l'ai prise en photo.
Avec un angle de salaud, parce que vous la prenez par en dessous, c'est-à-dire on voit les narines, la bouche ouverte.
Avec Rodolphe Le Gall, co-scénariste, qui fait le signe rock à côté.
La volonté de nuire.
Et quand elle s'est réveillée, elle a vu ça, et elle a posté derrière une photo de moi avec une bouillotte. Et puis là, c'est parti en couille, si on peut le dire. Et du coup, c'est devenu un outil promotionnel. Au départ, c'était complètement une vanne.
C'était un calcul, moi.
Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est là, je vous dis, même quand on fait des trucs vrais, parce que même les gens pensaient que c'était des photos mises en scène. Que c'était mis en scène et au fur et à mesure, après, du coup, bon, ça a pris de l'ampleur, les gens se sont accaparés le truc, ils l'ont fait eux-mêmes en couple, et ça m'a fait mourir de rire, parce que j'adore en regarder là. À chaque fois je vais sur le truc, je vois des gens qui se piègent.
Le hashtag c'est Rock'n'Roll Challenge.
Voilà, hashtag Rock'n'Roll Challenge. Et du coup, j'en ai fait une fausse, par contre, parce que c'est devenu un outil promotionnel, effectivement, que j'ai assumé pleinement, parce que ça servait tellement le propos. Mais j'ai été on a fait une fausse vidéo où je vais acheter des chiolles dans une pharmacie et c'est mon co-scénariste qui me prend en flag en train d'acheter des... Je suis avec plein de boîtes de chiolles en train de parler avec la pharmacienne, et j'essaye, je suis très content de mes chiolles.
Dans ce film que vous avez compris totalement délirant, il y a Marion Cotillard, Gilles Lelouch, donc Yvan Attal et Alain Attal aussi, qui jouent le rôle de Frangin, même si ça, dans la vie, par contre, c'est pas le cas. Johnny et Laetitia Hallyday, Philippe Lefebvre, qui est co-scénariste avec vous, comme d'habitude. J'ai le sentiment.
Ils sont sur Mon Idole et sur Ne le dis à personne aussi.
On n'a pas cité
que les petits mouchoirs,
Camiro, qui est juste dingue. Elle est juste dingue dans le côté, justement, jeune comédienne nouvelle génération, qui dit
femme enfant,
et qui dit t'es pas sur la liste. On a fait une réunion avec des copines, on a noté qui avait du sexe à pile, était plus sur la liste.
Il y a une liste, est bien couché,
c'est ça. Le mec, il devient fou parce qu'il y a une liste. Kev Adams, qui fait aussi une apparition, Ben Foster, Maxime Nucci, et ces vrais musiciens, c'est-à-dire que les vannes vont extrêmement loin. Tous les icos qui sont autour de Max sont les vrais musiciens.
Mais parce que ça, c'était aussi une manière de m'amuser de ce qui se passe vraiment dans la vie. Quand moi, je vais passer du temps avec mes potes qui sont des mecs, des musiciens, des rockers,
ou moi, des fois, j'aimerais
bien.
Et des vanneurs.
Et des vanneurs. Et moi, j'aimerais bien, des fois, pouvoir mettre juste un t-shirt et un perf et avoir des bottines et des trucs. Mais en même temps, j'ai mal aux pieds, je préfère mettre des baskets. Et que je suis pas rock du tout, en fait.
Ça plane pour moi.
on a repris le titre d'ailleurs.
Bah oui, c'est vous qui chantez à la fin finalement.
Ouais.
Vous êtes vraiment.
Mais ça, là, c'est pas moi. Là, ça,
non,
c'est...
là, c'est. Le... Non, mais non. J'ai pas la version de vous. Si vous l'aviez, moi, j'aurais bien aimé la passer.
Ah bah,
il faut m'envoyer le fichier.
Non, d'ailleurs, je l'ai parce que je vous ai rapporté. Je vous l'ai donné après. Je vous ai rapporté le 33 tours. Là, j'ai rapporté la BO pour vous l'offrir.
Ah mais gentil, mais donnez la main tout de suite, comme ça on va la passer. On a insisté sur, j'insiste à nouveau sur le fait que c'est extrêmement drôle.
Oui, on valide absolument. On est toujours dans une sorte de comique de situation où on se dit, mais où va-t-il aller? Où va-t-il aller vraiment, sincèrement, jusqu'au bout? Et ben ouais, à chaque fois, on n'est pas déçu. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on a envie de raconter plein de scènes qu'on ne racontera pas.
Non, mais vous pouvez en raconter. Non, mais il y a juste voilà cette partie-là que je voulais.
Ouais.
Il y a deux grandes parties dans le film, et à vous de la découvrir. C'est rock'n'roll, c'est bien rock comme il faut, et je trouve ça intelligent, voilà, de ne pas avoir peur de son image pour un film qui dénonce justement l'image.
Ouais, puis d'être libre, d'être qui on a envie d'être, quoi. Je pense que c'est ça, et de laisser personne vous obliger à devenir quelqu'un d'autre.
Exactement,
quoi.
Exactement. Ça s'appelle Rock'n'roll, et ça sort le 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin, autrement dit le jour de la Saint-Claude. J'étais obligé d'être un tout petit peu rock'n'roll là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Vos oreilles ont sifflé. Oui, mais... Saint-Claude, on produit un produit particulier, une spécialité. Vos oreilles ont sifflé lorsqu'on vous a annoncé la venue de Guillaume Canet dans cette émission.
Oui, immédiatement, Guillaume Canet, quand j'ai pensé à vous, j'ai pensé à votre premier long métrage que j'adore, Mon Idole.
Je suis un homme de télé, moi. Je suis certain que je pourrais être très bon. Même Broustal, il s'en est aperçu.
C'est où?
Parce que lui, c'est un mec bien.
Ah oui, c'est sûr, c'est un mec bien.
Qu'est-ce que vous faites ce soir? Allez, champagne, c'est parti! Clara, ma femme, Bastien.
Je pense que tu ferais un excellent animateur.
Bon, venez venir chez moi, on va peaufiner sur la campagne.
C'est quoi cette histoire?
J'ai pas eu le temps de t'en parler, c'est pour travailler.
Vous allez voir, on va passer un bon week-end!
Vous pouvez pas savoir l'effet que ça me fait, moi, d'être là à vos côtés. Vous êtes tellement un exemple pour moi.
Et c'est après ce premier film, Guillaume Canet, Mon Idole, que vous avez commencé à vous considérer comme acteur. J'ai lu ça dans une interview, j'ai trouvé ça assez intéressant. Ça veut dire quoi? Qu'il faut diriger pour...
Non, mais en fait, ce que je me suis rendu compte... Moi, j'ai toujours voulu être metteur en scène avant d'être acteur. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'ai fait mon premier film, parce que je faisais des courts-métrages, mais quand j'ai fait mon premier film, j'avais fait quelques films en tant qu'acteur auparavant. Et en fait, quand j'ai fait mon premier film, j'ai demandé des choses hallucinantes aux acteurs, dans leur préparation, dans la manière de penser au rôle,
s'impliquer
dans le film. Je me suis rendu compte que c'était un travail que je faisais absolument pas moi en tant qu'acteur. Et que à partir de ce film-là, j'ai commencé à travailler les personnages d'une manière différente. D'ailleurs, ça se sent un peu dans ma filmographie quand on regarde bien, parce qu'il y a Vidocq avant mon film. Et puis après, il y en a d'autres.
En termes de performance, vraiment, vous sentez une vraie différence notable.
Non,
vraiment.
Je peux pas dire moi que dans ma performance, c'est vraiment meilleur, mais en tout cas, je pense qu'elle est plus honnête. Voilà.
Et qu'est-ce que c'est qu'une préparation plus honnête? Parce que justement, pour faire le parallèle avec le film, on voit dans une forme de caricature le personnage de Marion Cotillard bosser du matin au soir avec en mettant en place plein de techniques qui peuvent sembler très risibles.
Pour me foutre un peu de sa gueule, parce que c'est des scènes que j'ai vécues, même à la maison, où quand vous la voyez en train de jouer aux petites voitures majorettes avec sa coach en faisant brrrr, mais que c'est pour travailler la décontraction pour le R, pour travailler en anglais. À forcément un moment, vous vous demandez si elle peut pas le faire assise, sans la petite voiture. Et voilà. Et donc, ça, j'avais envie de rigoler avec ça. Mais je vais pas jusque là, moi, quand je prépare mes personnages. Mais en tout cas,
c'est pas des rôles à César, en fait.
Non, mais du coup, c'est ça,
ou
en fait.
Oscar.
C'est pour ça que le mec commence à faire ce qu'elle fait. Il se dit, c'est peut-être ça qui marche, en fait. Faut peut-être parler avec un accent. Faut peut-être aller au bout des choses.
Elle est très forte parce que elle se moque d'elle, encore une fois pour revenir à Rock'n'Roll, elle se moque d'elle, mais elle est extrêmement juste dans la moquerie et dans l'autodérision. C'est-à-dire, l'accent qu'elle prend, il est juste dingue quand elle...
Elle a fait bosser vraiment à fond.
Mais voilà, donc du coup, voilà, j'ai commencé à bosser de manière un peu plus intense les personnages et simplement qu'avant, en fait, c'est qu'avant, je le faisais de manière un peu plus, instinctive, même si je le fais toujours de manière instinctive, mais je me disais, bon, j'arrivais. Et puis moi, le but, c'est, à l'époque, c'était vraiment pour gagner ma vie et pour pouvoir payer la pellicule pour faire les courts-métrages que je faisais en parallèle parce que je voulais être metteur en scène, quoi.
Simplement, un petit clin d'œil avant que tu poursuives, Leïla, pardon, sur Mon Idole, puisqu'il y a François Berléand qui est dans Mon Idole et qui est un comédien que vous auriez pu aider en lui donnant un nouveau rôle parce qu'il en a quand même besoin.
Mais j'écris un film en ce moment dans lequel
il en a besoin. Donc vous êtes prêt à ne pas avoir de succès. Mais c'est pas grave.
Il a été très généreux parce qu'on parle de sa prostate.
Exactement.
Dans le film,
exactement.
C'est le seul moment où on parle de lui.
C'est une scène qui restera dans les annales et c'est là où François Berléand est présent.
Et il est génial. Quand je pense à vous, à Guillaume Canet, je sais que tu blagues, mais à chaque fois ça me fait mal au cœur.
Tant que c'est au cœur.
Voilà, ça va. Quand je pense à vous, Guillaume Canet, je pense à un autre film, L'homme qu'on aimait trop, d'André Téchiné.
Le corps d'Agnès n'a jamais été retrouvé.
Ça fait plus de 20 ans. Il faudrait peut-être apprendre à faire le deuil de votre fille.
Ma fille a été assassinée par Maurice Agnelet. Je ne peux pas laisser l'assassin d'Agnès en liberté. Je ne peux pas.
Faites vos jeux.
Votre mère a été retenue au casino. Vous avez fait mon voyage?
Pas regarder le feu comme ça, ça rend triste.
Mais qu'est-ce que vous voulez que je regarde?
Moi, par exemple.
J'ai posé des questions sur vous.
Vous savez, il ne faut pas croire tout ce que les gens disent sur moi.
C'est un film tiré de l'affaire Leroux. C'est une affaire criminelle qui est survenue à Nice dans les années 70-77. Et il y a eu donc la disparition d'une jeune héritière. Et finalement, l'homme qui a été condamné, c'est Maurice Agnelet, que vous incarnez dans ce film, Guillaume Canet. La même année, vous jouez dans un gendarme très inquiétant dans La prochaine fois, je viserai le cœur. Ça a été une année totalement placée sous ce signe-là.
Ouais.
Hasard, j'imagine, en termes de propositions, ou envie à un moment d'aborder des rôles comme ça, où on s'attend à quelqu'un d'autre.
Non, c'est vrai, c'était une année, ça devait être plein de bourre à la maison, en fait, à cette époque-là, parce que Marion, elle faisait Macbeth.
Même pas une bonne ambiance. Ce qui se passait à la maison.
Il y avait une bonne ambiance à la maison. Ouais. Le petit, il a dû morfler en fait cette année-là psychologiquement. En fait. Entre papa qui va tuer des autostoppeuses et maman qui joue Macbeth. Mais je pense que c'était c'est la fameuse année en fait où j'ai voulu arrêter de faire des films en tant que metteur en scène. Ouais, je sais pas, c'est les concours de circonstances, ça s'est passé comme ça. C'était deux rôles vraiment formidables que je me voyais pas refuser parce que c'était des rôles très intenses, très complexes. Et puis plus...
Comme ces années-moi, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est le rôle qui vous, qui vous appelle, quoi.
Ouais, c'est des personnages, c'est des choses que j'ai l'impression d'avoir jamais fait auparavant. Et c'est ça qui m'intéresse de plus en plus aujourd'hui, surtout qu'avec le plaisir de la mise en scène et de l'écriture, j'ai du travail, j'ai pas de problème, je m'emmerde pas beaucoup, quoi, je fais pas beaucoup de la sieste. Et donc, du coup, quand je fais un film en tant qu'acteur, j'ai envie que ça soit un rôle où j'ai vraiment un truc à défendre important. Et là, en l'occurrence, puis travailler avec André Téchiné, travailler avec Cédric Anger, avec qui je vais d'ailleurs refaire un film génial, là, qui est un film dans le milieu du porno dans les années 80, une histoire vraie.
Et vous allez incarner, si on peut en parler.
Oui, je vais incarner un.
c'est François Berléand qui fera
ça. Non, c'est un fait divers sur deux flics qui ont infiltré le milieu du porno et qui. S'ils sont tellement plus que... Ils sont pas beaucoup rentrés à la maison, quoi. Si vous voulez,
on peut imaginer.
Voilà.
Rock'n'roll. Est-ce que vous pensez qu'après Rock'n'roll et forcément le succès qui est au rendez-vous de Rock'n'roll, vous serez crédible dans un autre rôle derrière? C'est-à-dire que d'un coup, on vous voit sur des plateaux de cinéma, on vous voit dans des humeurs exécrables
avec les mecs. Ouais, c'est ça.
Et d'un coup, on va se dire.
Et on va me revoir à quatre pattes chez l'urologue.
Oui, non, mais même pas ça, mais simplement la scène où vous changez, vous ne répondez pas aux ordres du réalisateur lorsque vous êtes dirigé par Philippe Lefebvre. On se dit, mais peut-être qu'il y a eu des moments de pétage de câble de Guillaume Canet où il a fait des propositions comme ça.
Je pense que ça fait partie de la vie aussi. Moi, je pense que je vous ai déjà vu très en colère et je vous ai vu très heureux aussi et très très drôle. Et je pense que quand c'est fait avec sincérité et quand on est impliqué dans ce qu'on fait de manière sincère, je pense que moi j'ai fait des choses sérieuses aussi avant. Donc les gens, les gens voient les trucs. C'est vrai que c'est pas comme un.
Vous pensez pas qu'il y aura un avant et un après Rock'n'Roll?
Ah, je pense qu'il y en aura certainement. Mais il y en a déjà un pour moi avant même que le film soit sorti. C'est-à-dire que moi, il m'a apporté cette ce truc vraiment, vraiment déjà dans l'écriture de me dire, allez, maintenant, pff,
on se lâche.
Ça suffit, quoi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait.
Moi, je pense au vent que vous lâchez sous la couette. Moi, à chaque fois que je repense à cette scène, je pleure toute cette
scène. C'est marrant.
Ça me fait la journée. Ouais,
bravo, c'est cool. Donc, toi, tu pensais que c'était lui. Moi, je pensais que c'était Marion.
Chacun d'interprétation. Chacun d'interprète comme on veut. Mais c'était le but, hein. C'était que personne.
Oui, parce que c'est pas un vrai prout de mec non plus, tu vois. C'est
ça.
Moi, j'ai les boules qui est. Moi, j'ai les boules qui est.
Et elle a le casque.
Elle a le casque. Donc, personne n'entend.
Comme si on pouvait reconnaître.
Oh, c'était Nora bien aiguisée.
Oui. Au son, le sexe. Non.
Nagui qui a l'oreille parfaite pour les bonnes notes, il peut te le dire.
Bah, j'ai appelé ma société de production Air Production à cause de ça. Je sais très bien d'où viennent les proutes. Bon, allez, c'est bon là, on est bien à terre là. Ok, super. Voici Rock'n'Roll, ça sort demain. Ça sort demain, ça sort la semaine prochaine, le 15 février, je le rappelle, avec Guillaume Canet en auteur-compositeur-interprète, j'ai envie de dire, du film aussi, avec tous ses potes présents, et on en reparlera encore. Mais d'abord, voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré.
Attendez, j'ai une blague. Est-ce que vous savez ce que c'est des fines tranches de chacru posées sur du riz? C'est un sashimi. 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui on va s'intéresser à cet endroit sombre, humide, très sale dans lequel on a laissé rentrer trop de gens. Et je ne parle pas des fesses de Daniel. Jing. Les prisons, c'est très très bien. On est logé, nourri, on se fait des relations avec des truands et on trafique alors qu'on est là pour le bien de la société. En fait, la prison, c'est comme l'Assemblée nationale, sauf que parfois en prison, il y a des innocents. Ouh ! Alors, vous le savez, souvent, quand je suis énervé, je dis oui, ce serait bien que Sarkozy, Cahuzac et Balkany finissent en tôle et qu'ils se fassent tellement mettre à l'amende que leur seul moyen de se laver les dents, ce soit de mettre du fluocaryl sur le gland de leur voisin de chambre. Eh bien, c'est complet. C'est complètement faux. En vrai, mon rêve, histoire qu'ils voient un peu ce que c'est la vraie vie, ce serait qu'on prenne tout leur pognon, qu'on les foute dans une barre à la Courneuve et que de temps en temps, quand même, ils se fassent tellement mettre à l'amende que leur seul moyen d'éviter les caries, ce soit de mettre du Colgate sur le prépuce de leur voisin de palier. Parce que pour être franc, même le pire des fils de pute, je lui souhaite pas de finir en prison. Ah bah, la prison en France, hein, c'est l'inverse du handball. On est des grosses merdes. Pour imaginer notre niveau en prison, remplacer Nicolas Karabatic par Gilbert Montagnier et Thierry Omeyer par Philippe Croison, s'il y a un tournoi, on a du mal à jouer les premières places. Il y a quand même deux fois plus de suicides dans les prisons françaises que dans les autres prisons européennes. Alors excusez-moi, mais quand tu préfères te pendre plutôt que de passer une nuit de plus dans ta cellule, soit t'es vraiment trop à cheval sur la literie, soit t'as plus la force pour une nouvelle journée de détention. Et vu le nombre de prisonniers qui arrivent à se pendre avec leurs draps, le problème c'est pas la qualité du linge. En matière de surpopulation carcérale, par exemple, la France est entre la Moldavie et la Macédoine. Putain, la Macédoine, quoi. C'est le cinquième pays le plus pauvre d'Europe. Leur seule fierté, c'est une salade à la mayonnaise dégueulasse qui ferait passer le taboulé pour une création de Paul Bocuse. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont même pas de candidat à l'Eurovision, mais on a les mêmes prisons qu'eux, quoi. À Fresnes, les cellules, elles sont occupées à 202%, et la moyenne nationale, c'est 115 détenus pour 100 places. Alors, j'ai pas fait maths sup, hein, mais je peux faire le calcul, 100 divisé par 115, hein, pour que ça rentre, il y a forcément un prisonnier qui doit en avoir un autre dans le cul. Hein. Quand t'es à 4 dans 9 mètres carrés, c'est plus les lits qui sont superposés, c'est les mecs. Hein. Alors à ça, tu rajoutes la bouffe dégueu, l'humidité, les rats, les insectes, les maladies, bon, en gros, tu prends Koh-Lanta, t'enlèves la plage, Denis Brognard, le chèque du gagnant, et t'as les prisons françaises. Hein. Même si c'est l'enfer, les prisons, tout le monde s'en branle. Hein, quand on est dehors, on se dit que ceux qui y sont, bon, ils l'ont bien mérité, que tant pis pour eux s'ils en chient, que la prison c'est une punition, c'est pas un hôtel. Et puis un beau jour, on rémunère sa femme comme assistante parlementaire fictive pendant 26 ans et paf, on se retrouve à genoux dans les douches avec deux grosses bites de cerbe au fond de la gorge à regretter de pas avoir profité de ses 36 années de mandat pour améliorer un petit peu les conditions de vie des détenus. Hein. D'ailleurs, à la limite, si la détention c'était efficace, je dis pas, mais il y a deux fois plus de récidives après une peine de prison ferme qu'après une peine alternative. Hein. Et si les mecs retournent en tôle, c'est pas que la soirée choucroute au verre pilé du vendredi leur manque, c'est parce que les seuls trucs que t'apprends en prison, c'est des nouvelles façons d'y retourner. Hein, c'est pas de la réclusion, c'est de la magie. Tu mets un dealer de shit à Fleury, t'attends 6 mois et abracadabra, tu récupères un braqueur. T'enfermes un voleur de scooter qui a un rhume, hocus pocus, tu ressors avec un djihadiste qui a le sida. Hein. Et malgré ça, au lieu de proposer le développement des peines alternatives et la rénovation des maisons d'arrêt, le Fillon, là, et Le Pen, ils continuent à faire leur campagne en disant qu'il faut plus de cellules. Eh ben, il ferait mieux de retaper les barres à la Courneuve, parce que quand on appliquera mon programme à moi, ils auront besoin d'une moquette confortable pour pas se râper les genoux quand ils se feront laver les dents par le voisin de palier. Merci de m'avoir écouté.
Camille Barré.
Nagui sur France Inter.
Pas tous les jours qu'on entend Fluo Carrel sur France Inter.
C'est vrai.
J'ai rajouté Colgate derrière.
Ça, c'est un petit clin d'œil aussi au film. Hein. Il y a beaucoup de coucou présents dans Rock'n'Roll, ce qui est très rock'n'roll. Puisqu'il rentre chez lui à heure fixe. La bande originale, d'abord, la bande originale du film, c'est Guillaume Canet qui chante Ça plane pour moi. Yeah, rock'n'roll!
Voilà, mon chasse-là, j'y suis sur mon lit, a fait sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vidé, brimé, j'ai dû dormir dans la gouttière. J'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois.
Là, vous êtes offert un kiff aussi.
Ah ouais, c'est bon. Avec tous mes potes, avec Jérôme Goldet, Patrice Renson, Maxime.
C'est que des bons en plus, hein. C'est des purs musiciens.
Ouais, ouais.
Pur musicien. Donc ça, c'est sur la BO qu'on en vente libre qu'on va pouvoir acheter le Saplan pour moi, avec toujours le challenge. Je rappelle de venir le chanter dans Taratata avec
Avec plaisir.
Ses copains musiciens. Je vais faire comme Alain Attal, que si Malin Cotillard fait les chœurs. Sinon, puisque c'est ça dans le film aussi. Quoi que vous fassiez, c'est ah non, mais il faut que Malin Cotillard soit là.
Ouais, on va laisser accoucher la bande.
Je vous ai déjà vu jouer tous les deux au Cirque d'hhiver, notamment.
Ah oui, c'est vrai.
Pour Solidarité Sida.
Ouais, on avait chanté avec Mathieu Chédid, une reprise de Rodriguez.
Simone étant son pseudo de musicienne rock'n'roll.
Voilà, c'est ça.
Simone. Mais là, elle fait Taratata, pas encore Guillaume. Ouais. Rock'n'roll, c'est le film qui sortira le 15. On va prendre quelques.
Mais c'était mon rêve de faire Taratata quand j'étais gamin, ça va te rajeunir aussi.
Ça, c'est moche.
Mais non,
ça,
mais c'est vrai. C'est vrai, mais il faut l'entendre, ça fait partie de la vie, Nagui. Mais quand j'étais gamin, ce que je raconte dans le film, quand je lui dis j'aurais rêvé d'être sur les routes et de faire de la musique avec mes potes et tout, mais j'ai toujours voulu être musicien, être chanteur, être rocker, et je rêvais quand je voyais le Taratata, je me voyais le soir, je m'endormais en imaginant être invité de Taratata.
Ouais, mais sauf que Taratata.
Il me regarde en me disant
non,
quel connard.
Non, mais t'as raison, sauf que Taratata est né, tu avais 21 ans. Voici le côté quand j'étais enfant. Non, mais quand j'étais gamin, je regardais Taratata, t'avais 21 ans.
Bah oui, c'est bien, c'est ça.
Si vous voulez, je vous mets d'accord, j'avais 20 ans, Guillaume jouait dans La Plage de Danny Boyle, et toi, tu te connaissais comme mon doudou depuis que j'étais petite.
Mon doudou.
Bah, à la télé, je te voyais à la télé depuis que j'étais petite.
93. Ce truc qui sort fort et dont tu mords l'oreille, le doudou.
Oui, c'est ça. On peut parler de Guillaume Canet.
Non, mais c'est pour vous mettre d'accord.
Et justement, on va commencer en 93.
J'avais pas du tout 20 ans. Hein.
Ah,
en 93, j'avais pas du tout 20 ans, mec. J'ai 43 ans, moi.
Eh ben.
Eh ben alors,
93. Mais non, parce que 97, quand j'ai fait La Plage, j'avais 20 ans.
Non, mais attends, si t'as 43 ans maintenant.
Vous avez
93, oui, non.
93, 20 ans.
Ouais, c'est vrai, bah oui. Bah oui, je ne sais pas compter.
Nagui, t'imagines, on est en direct, la gênance du truc.
Ah non, on va l'enlever au montage, t'inquiète pas.
Vous avez bossé combien de temps?
Non, gardez-le, au contraire. Ça fait partie, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui.
Savoir humain.
Donc, en 93, lorsqu'il était.
C'est l'âge.
Lorsqu'il était enfant.
C'est l'âge. C'est que le mec ne sait même plus compter.
Vous écoutiez. C'est pas le titre de Janis Joplin le plus connu, mais ça fait partie en tout cas de votre culture musicale, Janis.
Oui, non, en fait, c'est parce que c'était un morceau que j'ai choisi, ce morceau-là, parce que c'était mon premier court-métrage qui s'appelait, enfin, un des premiers qui s'appelait Sans Regret. Ouais. Et j'avais mis cette musique là-dessus, et c'était juste pour raconter ça. C'est la manière dont je travaille, c'est toujours en fonction souvent d'une musique qui m'inspire une histoire. Et cette musique-là m'inspirait une histoire que j'ai écrite, que j'ai tournée, que j'ai réalisée, et puis après, j'avais plus les droits. Et je me suis retrouvé coincé. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de Serge Perratonnerre et Yannick Tops, qui étaient dans un restaurant italien qui s'appelait la Sardegna, à côté d'où j'habitais.
Yannick Tops est un producteur, mais aussi bassiste. Il faisait partie de Magma.
Ils m'ont aidé à trouver un morceau pour mon premier court-métrage. Et voilà. Donc ce morceau-là, c'est resté un morceau pour moi assez important.
Mais ça veut dire que rock'n'roll est aussi partie de.
Ouais.
J'adore.
Hein.
paradis.
Ah oui, je la connais par cœur.
Bah là, j'ai vu le film 150 fois, donc si je la connais pas par cœur. Mais, bah, entre autres, c'est parti aussi de, oui, moi, j'adore Demis Roussos et les Aphrodite Childs. J'adore pas forcément les parties françaises, mais en anglais. Ouais. Ouais. Mais c'est parce que, ça fait partie de notre vie aussi. Il y a des trucs qu'on aime dans la vie et que les gens trouvent ringues. Mais à un moment, faut assumer, quoi.
Moi, j'adore Daniel Morin.
Ouais, mais c'est une vanne, par contre. Mais je suis sûr qu'il y a des choses que tu aimes bien.
C'est pas une vanne.
Mais je suis sûr qu'il y a des choses que tu aimes bien.
J'écoute du Pierre Bachelet en cachette.
Et que tu n'oses pas forcément dire. Voilà. Et c'est ça qui m'amusait, c'est de le dire ouvertement.
En 2003, vous êtes au cinéma avec Marion Cotillard et vous écoutiez. C'est une vanne que vous écoutiez Edith Piaf ?
Non, c'est en fait le truc, c'est que sur le film, il y a La vie en rose qui est déclinée par plein d'artistes. En fait, c'est la BO du film, en fait, ouais. Sur Jeux d'enfants. Et c'est le film sur lequel on s'est rencontrés, si je puis dire. On avait passé avant, on a été potes depuis très très longtemps. Et en fait, il y a eu cette histoire après derrière avec Piaf, avec. Donc voilà, c'est vrai que c'est une chanson qui est assez
marquante
ouais. de notre vie, quoi.
Et ces Jeux d'enfants, le Tepa Cap, c'est un peu aussi.
Ouais, mais c'est pour ça que quand j'entends des gens aujourd'hui dire.
Est-ce qu'il y a eu un moment avec Marion, vous étiez à la maison et est-ce que Marion vous a dit t'es pas cap ou chiche de faire rock'n'roll? Il y a eu un doute. Est-ce qu'il y a eu un
non, pas du tout. Non, aucun doute. Et puis quand j'ai parlé du film, parce que j'avais quand même dû en parler avant, mais parce que si elle n'aimait pas, ça aurait été un truc. Mais le cap ou pas cap, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, c'est aujourd'hui quand les gens voient les trucs sur Instagram en disant ah, mais c'est de la promo, ils sont prêts à tout maintenant pour faire des films. Mais ce qu'ils oublient, les gens, c'est que moi, j'ai commencé dans un ananas, hein, quand même. Le premier truc que j'ai fait, c'était une pub pour de la charcuterie où j'étais déguisé dans un ananas. Donc, la peur du ridicule.
Ah, je crois que c'était Hollywood Chewing Gum.
Oui, avant Hollywood Chewing Gum, il y a eu un institutionnel pour la charcuterie. Qu'avec Marion, on a joué pendant tout le film à l'époque. Elle devait aller photographier une bite d'un technicien. Ça, c'était son cap à elle. Moi, je devais draguer un serveur devant les producteurs au restaurant et lui demander son numéro. Enfin, on faisait des conneries déjà avant. C'est-à-dire que maintenant, comme on fait un peu plus de tapis rouge et un peu plus de couverture de journaux, les gens pensent qu'on est chiant, qu'on rigole pas, qu'on s'amuse pas, qu'on est que dans le glam. Mais non, Marion pète aussi au lit, ça lui arrive de temps en temps.
Mais c'est drôle au cinéma.
Mais non,
on n'est pas chez Mireille Dumas, arrêtez.
Mais je m'en fous.
Si, gardez. Non, moi je veux pas.
Mais Mireille Dumas pète au lit aussi.
Mais ça se voit capillairement d'ailleurs.
Mais vous le couperez. Non, mais faut pas croire. Enfin voilà, faut pas croire tout ce qu'on nous raconte.
Bah, y compris ce que vous racontez maintenant.
Y compris ce que je viens de dire.
Voilà, exactement. On a demandé à Camille Rocher de. Merci Camille de venir à ce micro. Vous êtes psychologue et thérapeute de couple. On avait besoin que vous analysiez de Guillaume et de Marion. Vous tenez un blog qui s'appelle À nous tous ?
Oui, tout à fait, anoutous.com. Voilà, c'est un blog que j'ai depuis 5 ans. Ouais. En fait, le but, c'est d'enlever un peu le côté tabou autour de la psychologie et de montrer que...
Et aider le couple aussi.
Et aider le couple, évidemment, voilà. Et de montrer qu'on peut... C'est pas que pour les fous et il y a plein de choses intéressantes à voir.
Alors, ce qui est intéressant dans Rock'n'Roll, c'est que, évidemment, on rit, on s'amuse et ils égratignent tous leur image dans le film. Mais ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, c'est aussi un regard extrêmement intelligent sur le cap de la quarantaine, sur des remises en question, sur la manière de vieillir, de continuer de s'aimer ou pas, de se supporter ou pas. Est-ce qu'elle existe, cette crise de la quarantaine, ce démon de midi dont on parle souvent, et dont Michel Bernier d'ailleurs avait fait un spectacle aussi.
Alors en fait, la crise de la quarantaine, c'est-à-dire que je parlerais plutôt de la crise du milieu de vie. C'est pas forcément la quarantaine. Aujourd'hui, ça peut être la cinquantaine. Il y en a qui la font à 30 ans, mais voilà. C'est vraiment la crise du milieu de vie. C'est un moment où je vais avoir un chamboulement dans ma vie et je vais commencer à me poser des questions, à faire un bilan sur ce que j'ai fait, les engagements que j'ai pris, tout ce que j'ai pu mener dans ma vie et ce qui va se passer après.
Est-ce qu'il me reste à vivre aussi
Voilà,
est-ce que le point de départ départ est comme dans le film, c'est-à-dire d'abord un regard des autres ou de soi-même sur soi. C'est-à-dire avant de regarder son entourage, c'est d'abord comment je suis vu, observé, et l'image que j'ai de moi devant ma glace le matin.
Ah bah moi j'ai vu le film et vraiment j'ai trouvé que c'était hyper fin. Je pense que, enfin je sais pas s'il y a eu un gros travail derrière sur l'analyse de cette crise de la quarantaine. Mais franchement c'est hyper fin et en fait c'est comme ça, c'est vrai que c'est délirant, ouais. Mais derrière il y a vraiment c'est hyper fin, il y a tous les éléments de la crise de la quarantaine et c'est vrai que au début il y a vraiment cette question de mon image sociale, ce qu'on appelle le personnage social, ouais. Qu'est-ce que je montre à l'extérieur de moi et c'est vrai comme le disait Guillaume tout à l'heure, c'est clair qu'il y a vraiment aujourd'hui un accent hyper important sur ce personnage social, qu'est-ce qu'on pense de moi avec en effet toutes les photos qu'on peut mettre de soi, l'attente des commentaires qu'on va avoir sur ce qu'on poste, tout ça.
Bah, c'est l'histoire aussi du nombre d'amis qu'on a sur Facebook, ou voilà, des gens qui suivent sur Twitter, Instagram, c'est-à-dire
comment je suis perçue à l'extérieur, voilà, quelle est mon image à l'extérieur.
D'autant que dans le film, le personnage de Guillaume Canet est en souffrance quelque part par rapport à la notoriété aussi, ouais. De sa femme, donc on inverse aussi un code traditionnel, c'est-à-dire que là, il a appelé Monsieur Cotillard quand il va chercher les légumes. Ouais,
c'est
donc c'est aussi qu'est-ce que donne à voir un homme de son âge, ouais. Qui a eu une carrière qui semble quelque peu effacée par celle de sa femme. C'est ça aussi qui est intéressant, ouais. Dans la problématique de l'homme qui généralement est celui qui brille et qui attire la lumière.
On l'a dit en début d'émission, c'est l'homme qui a peur de vieillir, alors que souvent, je repense, il y a même des chansons d'Olivia Ruiz aussi où elle dit je fais attention à mes fesses, ou ainsi. Enfin, elle parle de la femme qui a peur de voir son corps qui change et qui vieillit. Est-ce que c'est cette crise du milieu de vie est propre aux hommes, aux femmes, ou c'est vraiment la parité qui marche à nouveau?
Alors en fait c'est intéressant parce que ça, honnêtement moi dans mon cabinet en tout cas je reçois autant d'hommes que de femmes qui vivent cette crise là,
ouais.
Voilà, qui tout d'un coup ne se reconnaissent plus, prennent des choix qu'ils n'ont jamais pris, l'entourage ne les comprend plus, il y a des transformations parfois corporelles, véridiques.
Ça commence par quoi? Est-ce que ça commence par quand on est en couple, par tromper? C'est-à-dire la crise de la quarantaine, c'est je quitte ma femme ou je quitte mon mari et je vais vers une plus jeune fille ou un garçon plus jeune que mon mari.
Alors ça, en fait, c'est pas mal un cliché. C'est-à-dire que si on est face à ça, on peut se dire ok, on est sûr, c'est la crise de la quarantaine. Mais parfois, c'est beaucoup plus insidieux.
Ouais, si on quitte son foyer, là, on peut dire ok, là, il y a un problème. Okay.
Non, mais
t'as une chance d'être rassuré. c'est le
cliché par rapport.
On n'est pas obligé de quitter le foyer pour avoir une crise.
Oui, exactement. C'est pas si jamais, en effet...
On peut draguer la psy, par contre.
vous faites draguer par les quadras qui sont...
Il faut préciser que Camille est très mignonne, c'est pour ça que vous posez ce genre de questions aux bandes de morphales que vous avez. Ouais.
Sinon, je parle pas aux gens. Répondez-moi.
Non, c'est l'interrompre, développer le propos.
Pas trop le sujet.
Il y a un petit moment de gêne, quand même.
Un petit moment de gêne.
Non, mais après, si vous regardez, il y a l'histoire du transfert qui fait qu'en effet, on est la personne qui écoute, donc forcément, comme aujourd'hui, on est dans une société, on se sent assez seul et pas écouté. C'est clair que le psychologue, on a tout un travail à faire là-dessus parce que on peut être la personne bienveillante tout d'un coup. Voilà.
Alors, revenons non pas à cet épisode de drague de Daniel Morin, qui est marié avec un enfant, merci.
Non, je suis marié avec une femme.
Non, Mais de temps en temps,
on a dit qu'on le disait pas à l'antenne.
Mais de temps en temps, il fait de l'échangisme avec l'enfant.
Cette nuance que vous avez apportée, dans un couple ou dans une famille, il peut y avoir une crise sans que le foyer en lui-même explose dans un premier temps, en tout cas.
En fait, c'est hyper insidieux.
Donc c'est l'image, la première.
C'est l'image que j'ai de moi. Et en fait, le problème, c'est que mon conjoint va venir représenter ce que je n'aime pas de moi parce que ça va être là. Il va faire partie de mon personnage social. Voilà, le fait d'être en effet en couple avec un enfant, de revenir tous les soirs à la même heure, tout ça. Finalement, ce que je vais commencer à me reprocher, je vais le voir évidemment et je vais le projeter sur mon conjoint. Et c'est pour ça qu'en général, c'est une période où il y a une grosse crise dans le couple.
Alors ça se concrétise.
On projette tout.
Comment est-ce que ça se concrétise par je vais perdre du poids, je vais muscler, je vais m'habiller différemment, ouais. Je vais manger sans gluten, je vais
devenir quelqu'un d'autre.
Je vais devenir végétarien.
Ouais. Devenir quelqu'un d'autre.
Ouais. Exactement. Ouais. Tout à fait. Ouais, c'est
créer
ça.
En fait, un personnage idéal à nouveau. Quoi.
Et ça reprend un peu la crise de l'adolescence. on a un idéal de soi. Et là, c'est essayer de réaliser un peu mes fantasmes, l'idéal que j'avais de moi. Et je me rends compte, là où jusqu'à 40 ans, je me disais, je sais que je vais mourir un jour, mais bon, je me sens quand même tout puissant. Là, à 40 ans, on se dit, ok, je sais que vraiment, je vais mourir un jour. Il va falloir que je réalise tout ce que j'ai pas pu réaliser et essayer de gagner du temps sur ce temps qui
arrive. Alors, ce que vous racontez, c'est extrêmement positif, cette crise.
Mais c'est intéressant que vous disiez ça, Nagui, parce que c'est vrai que le mot crise.
11h52, c'était en février 2017.
Mettez une cassette.
Non, mais le mot crise, on projette un truc hyper négatif, alors qu'en fait, c'est juste une adaptation à une nouvelle vie qui s'annonce
c'est
à
quoi,
moi.
Alors, un redémarrage
Alors, c'est pas forcément. En fait, ça peut être très destructeur si, en effet, du jour au lendemain, je balance tout ce que j'ai construit jusqu'à présent. Là, ça peut être destructeur parce qu'on peut faire souffrir les autres, on peut laisser. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de ça parce qu'ils se retrouvent sans parents et ne comprenant plus du tout ce qui se passe. Mais ça peut être aussi positif parce qu'il y a beaucoup de. Surtout chez les femmes, c'est en général un peu plus. Ça peut être plus positif parce qu'elles vont commencer à investir l'extérieur, à se permettre des activités du temps qu'elles ne se prenaient pas avant. Oh et voilà, donc ça, il peut gêné, y avoir.
C'est toujours elle, c'est toujours elle qui en profite, c'est quand même dingue ça. Et est-ce qu'il y a une période? Est-ce qu'elle dure un an, deux ans ou est-ce que c'est carrément un virage et ce virage est pris ad vitam aeternam? On est quelqu'un d'autre, une deuxième partie de sa vie.
Alors ça, c'est la question que je déteste le plus parce que j'ai beaucoup de conjoints.
Ça va un peu plus longtemps, t'as parlé d'intelligent.
En fait, il y a... Non, mais il y a beaucoup de conjoints qui souffrent de voir leur conjoint qui est en pleine crise et qui comprennent rien, qui s'en prennent plein dans la figure et qui viennent me voir en disant mais Camille, dites-moi, est-ce que ça va durer longtemps ou pas? Et en fait, moi, je suis dans la capacité de répondre parce qu'il y en a qui vont prendre le recul tout de suite, comme disait Guillaume tout à l'heure, mais c'est complètement, c'est ridicule ce regard que j'ai sur moi. Ok, j'accepte d'avancer et puis c'est tout. Et il y en a d'autres, ça peut durer et très longtemps. Et puis à un moment donné, on a fait tellement de pas de destruction que finalement, pourquoi revenir quoi.
Est-ce que je peux ajouter quelque chose parce que je trouve ça très intéressant ce que vous disiez et l'intelligence qui en ressort. Et ce qui est dingue, c'est que là, c'est là aussi qu'on se voit vieillir. Je sais pas si ça est déjà arrivé quand vous faites face en fait dans la vie de tous les jours à des gens comme Camille qui est plus jeune que moi
et
qui a un vrai savoir, une expérience et qui en parle très très bien. Et quand vous vous retrouvez
par exemple avec un chirurgien, la sagesse vient d'elle.
Non, mais c'est-à-dire que on se voit tout d'un coup, on se dit mais un chirurgien qui vient vous voir, qui dit bah c'est moi qui vais vous opérer, et vous voyez quelqu'un beaucoup plus jeune que vous et vous dites bah merde. Non, mais est-ce qu'il est vraiment chirurgien?
Est-ce qu'il a le
commandant de bord qui voudrait que vous fassiez le décollage avec lui dans le cockpit. Ouais. Et vous arrivez, vous avez le mec, il a 20 ans de moins que vous. Bonjour.
T'as ton permis.
Mais c'est là, je veux dire, c'est des signes aussi. Je pense aussi, quand on arrive à la quarantaine, on a des signes comme ça de la vie où on se dit, mais merde, alors. Mais merde, je suis vraiment vieux, quoi. C'est-à-dire que, enfin voilà, c'était pas très intéressant, parce que je serais en réaction avec ce que.
Il y a aussi la question, c'est où est le problème d'être vieux?
C'est-à-dire
d'avoir eu un parcours et après de se dire, la question c'est est-ce qu'on en a plus.
C'est de l'accepter.
Derrière, oui, c'est ça. Est-ce qu'on a plus derrière nous ou devant? Or, ce que j'entends.
Dans...
rien dire ici. Ce que j'entends, Camille, dans vos explications, c'est que c'est plutôt un redémarrage, une renaissance que je ressens comme étant positive. Qu'un garçon se dise je vais arrêter d'avoir la bouée autour du bide, je vais faire attention à ce que je mange, je vais me remettre au sport parce que je suis à 40, 50 ans et je veux pas non plus me laisser aller. Qu'une fille, je ne sais pas, se consacre à d'autres activités ou se pose aussi des questions sur son hygiène de vie. Voir sur la santé,
voir sur son hygiène.
Dès que j'y fie, généralement, après, tu fais oui, pourquoi les filles, pourquoi pas les autres aussi?
J'ai rien dit encore, d'accord. J'écoute.
Je ne vois que du bon dans tout ça.
En fait, il y a deux axes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une phase très positive.
Faut trouver un autre nom que crise, quoi. Faut pas l'appeler crise,
ça. Ouais, en fait, je crois que ça devient hyper positif.
C'est pas de sa faute, hein.
Un peu quand même, ça va.
Ça devient hyper positif à partir du moment où je me dis oui, j'accepte que j'ai cette crise, ok, ça m'arrive, je l'accepte, mais maintenant, plutôt que de vouloir absolument changer tout l'extérieur, me poser la question sur l'intérieur. faire et ce que je peux faire pour pas tout mettre en l'air et pas tout rejeter de tout ce que j'ai construit, mais
garder les fondamentaux,
des petits changements. Ouais, et parfois ça peut demander aussi des changements importants en couple. Je sais pas, bah on réalise ce rêve de partir à l'étranger qu'on n'a jamais fait, et puis bah tant pis, on se posait plein de problèmes avec les enfants, tout ça, bah c'est pas grave, on y va, et c'est du coup positif.
Mais je pense que c'est aussi, il faut garder le cri en fait dans la crise. Il faut garder le cri qui est à l'intérieur, qui et il faut l'écouter. Il faut simplement écouter ce cri de l'intérieur. Et je vais écrire des chansons maintenant.
Le cri de l'intérieur, c'est Bernard Ville qui l'a déjà fait.
Non, mais voilà, et savoir l'écouter, et simplement essayer d'agir en fonction de ce qui.
La sexualité fait partie du problème, entre guillemets, de ce virage-là aussi.
Ça va être dégueulasse.
Ouais. Non, mais ça en fait partie parce que, évidemment, aussi, il y a une baisse des capacités physiques, hein, clairement. Bon. Ça, on peut.
Daniel. Attendez.
Mais d'après toi, de la part de qui?
Mais après, encore une fois, c'est important d'arriver, enfin de pas se dire c'est catastrophique, il faut que
je convoque ma femme, il y a un truc qui va pas.
Non, mais justement de se dire on est peut-être rentré dans des habitudes, il faut peut-être changer un peu ça, parce que si je vois que je commence à être tentée par des gens à l'extérieur,
mettons un peu de piment dans notre vie sexuelle, arrêtons de ronronner, de faire des proutolis et passons à autre chose.
Non, mais je fais autre chose, je lui dis aussi que je vais la baiser comme une bonne salope aussi.
Oui, mais c'est vrai.
C'est pour un rôle.
Non, je parlais du film.
Continuez sur le cul, j'écoute.
Oui, on peut pimenter sa vie ou éviter de tomber dans le train-train quotidien.
Oui, exactement. Mais après, on a toujours aussi une image hyper négative du train-train quotidien, mais il y a un côté hyper sécurisant. Et en fait, des gens qui vont commencer à fuir ce train-train quotidien peuvent se retrouver hyper seuls dans une chambre d'hôtel avec plus de famille et plus rien. Et en fait, regretter ce train-train quotidien parce que tout d'un coup, on est insécurisé et on se retrouve tout seul.
Camille Rocher, psychologue, thérapeute de couple, membre de la Société française de thérapie familiale, j'ai oublié de le préciser, pardon, et vous tenez votre blog qui s'appelle « À nous tous », qui traite au jour le jour des problèmes de couple, de famille aussi, tous les sujets, même de l'individu. Merci Camille d'avoir apporté votre savoir, votre connaissance. On a son 06. Notre invité est Guillaume Canet. On parle de rock and roll.
Ça donne un peu de crédibilité à bon film en plus.
Mais totalement. Mais non, merci. Ça a été. C'est pour ça qu'on
a
invité. Absolument.
Merci à vous.
Jusqu'à midi et demi, Guillaume est notre invité sur Inter. C'est la bande originale. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudani.
Bonjour à tous.
Tom Villa.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Cher Emmanuel Barré. Et Charlotte qui est au clavier. Notre invité, Guillaume Canet. Vous l'avez compris, ce film est une comédie, ça s'appelle Rock'n'Roll, ça sortira le 15, c'est avec un casting de dingue. Autour de Guillaume, il y a évidemment Marion Cotillard, Gilles Lelouch, Yvan Attal, Johnny et Laetitia Hallyday, Philippe Lefebvre, Camille Rowe, Kev Adams, Ben Foster, Maxime Nucci, j'en oublie, parce qu'il y a beaucoup de...
C'est des petites apparitions hein, pour certains, mais...
Ouais, mais Ben Foster, c'est essentiel cette apparition, celle de Kev Adams aussi. Sans déflorer ses apparitions, Camille Rowe, elle, c'est plus qu'une apparition, c'est le rôle principal féminin, presque plus important que celui de Marion.
Elle est moins présente que Marion, mais il est très important parce que c'est elle qui est en fait détonateur de tout. Et les deux fois d'ailleurs, la première fois en m'annonçant ça, que je suis pas très très rock et que j'ai chuté dans la liste des acteurs qu'on aimerait bien niquer. Et puis derrière, quand moi j'essaye d'aller à fond dans ce truc et que je me rends compte que ma quête est totalement vaine, elle me dit mais je t'ai jamais dit ça. Tu sais, c'est le truc aussi des fois qu'on dit quand on met un rat dans la tête à quelqu'un en disant un truc et qui derrière dit mais je t'ai jamais dit ça. Et là le mec repart dans un autre truc en disant non, je disais souvent c'était trop vieux pour certains rôles. Et le mec repart dans un autre. Donc, elle est très importante dans le.
Voilà, elle est décisive. Oui, non, mais il se passe vraiment un truc important où dès qu'elle apparaît, il va se passer quelque chose de chimique presque dans votre dans votre tête. La musique est très présente aussi.
Il y a
est-ce qu'on parle des jeans slim de cette création totalement ubuesque du 20e siècle?
Ouais, qui moule bien, ouais. Non, mais voilà, l'idée c'était ça, c'était de se dire est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs pour la petite anecdote, j'ai gardé toutes les fringues du film, et la dernière fois j'ai été voir un concert des Black Minou avec Yarol Poupeau, et j'ai voulu avant de partir, je me suis dit tiens pour le kiff, je vais mettre le perf parce que de toute façon il y aura plein de mecs là-bas qui auront des perfs, donc je vais y aller avec le perfecto, voilà, pour une fois je vais essayer quoi. Et je suis sorti de ma chambre, il y avait la chambre de mon fils qui a 5 ans et demi, qui était en face, qui m'a vu passer comme ça, et il a levé les yeux au ciel.
Je me suis dit, putain. Allez, on met un survêt.
Et je suis arrivé dans la cuisine et ma mère m'a dit, tu vas pas y aller comme ça? Non, c'était juste pour voir. Et en fait, voilà, il y a des trucs qui vont bien. Je dis, pourquoi Yarol, ça lui va bien et qu'il est pas ridicule, et pourquoi moi, j'ai l'air d'un con? On sait pas.
Ça fait partie de la BO de ce film et aussi évidemment.
Le sosie de Daniel.
Et dans la BO du film, il y a aussi. Quel bon du temps passant. Et c'est Guillaume Canet qui chante. Parce qu'à l'époque, c'était pas Plastic Bertrand qui chantait.
Ah ouais?
C'était Lou, son producteur, qui chantait. Ça veut pas dire que lui était pas capable de chanter, mais sur le disque, en tout cas, ça a jamais été la vraie voix de Plastic Bertrand. C'était son producteur Lou qui chantait, qui avait fait Lou and Hollywood Bananas. C'était lui qui chantait. Et puis après, Plastic Bertrand
l'a reprise
à sa mesure. Très bon film qu'on vous recommande. Donc, Rock'n'Roll, ça sortira mercredi prochain, jour de la Saint-Claude, le 15 février. Rock'n'Roll. Voici l'humeur de Daniel Moa, messieurs dames.
Les chiffres sont là. Chiffres sont impressionnants. François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon font un carton d'audience quand ils passent à la télé. Avant-hier, pour la conférence de presse de François Fillon, 2 millions de téléspectateurs pour la voir en direct. D'ici peu, la pub va pointer le bout de son nez. Et qu'est-ce qui va dire non quand on sait combien ça coûte de financer une campagne présidentielle? Personne. Ah, nom de Dieu, j'ai hâte. Un des chouchous, Emmanuel Macron, va sûrement avoir de gros annonceurs pour ses meetings retransmis à la télé. Mes chers compatriotes, ma politique est claire, mon programme est simple, il tient en peu de promesses, et ces promesses essentielles qui nous permettront de nous battre vraiment et de nous mettre en marche, quelles sont-elles? Eh bien, je vais vous le dire, je vous le dis juste après la pub. Vous en avez assez des frais de fonctionnement, des agios, des cartes bancaires payantes? Normal. Normal, mais rares sont les établissements qui vous comprennent. Chez Rothschild, nous vous proposons une gestion sans frais de vos comptes, un suivi clientèle personnalisé et des facilités de caisse que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Banque Rothschild, plus qu'un établissement bancaire, un partenaire. Les établissements Rothschild sont fiers d'accompagner la campagne d'Emmanuel Macron. Voyons ce que ça pourrait donner pour le Front National.
Oula.
Chers compatriotes, vous voulez du changement, vous voulez une France plus juste, vous voulez une France plus fière de ses traditions, vous voulez une France plus en sécurité, eh bien le Front National est là pour vous donner tout ça. Parmi les premières mesures que nous prendrons, que nous serons au pouvoir, il y en a une qui va déplaire à beaucoup, mais qui va en ravir encore plus. Cette mesure, c'est dans quelques instants. Vous en avez assez des préservatifs qui ne tiennent pas la route? Vous en avez assez des préservatifs qui vous lâchent en pleine accélération? Eh bien, sachez qu'à l'occasion de son partenariat avec le Front National, Durex présente la capote marine. Taillée dans une toile cirée bretonne, capote marine ne vous lâchera jamais. Que ce soit pour un rapport tout en douceur ou bien une saillie style tempête, de couleur jaune poussin avec une photo de marine au bout, elle est dorénavant en vente partout. Avec le Durex marine indésirable, reste en vitrine. Qui pour s'intéresser à la candidature de Benoît Hamon? Mes chers amis, la France va mal. Non seulement elle va mal économiquement, elle va mal socialement, elle va mal humainement, mais elle va mal, voire très mal, question environnement. Pourtant, des solutions existent pour une France écologiquement responsable. Parmi ces solutions, il y en a une toute simple, toute évidente. Laquelle? Je vous dis ça après la pause. Pour une France plus verte, pour une France plus responsable au niveau de l'environnement, Monsanto présente Roundup. Roundup, bien plus qu'un désherbant pour vos gazons, c'est une cure de bien-être pour vos pelouses et vos potagers.
Pelouses.
Une herbe et des légumes débarrassés des nuisibles et autres barrières naturelles néfastes à leur prospérité. Roundup de Monsanto, ça tue tout, tout, sauf le goût. Monsanto est fier de soutenir la campagne écolo de Benoît Hamon. pour Jean-Luc Mélenchon, il faut que ça pulse, il faut que ce soit énergique. Camarade, vous êtes d'accord avec moi, ça suffit? Oui, ça suffit. Ras-le-bol de cette gauche molle qui nous a mis dans le rouge. Ras-le-bol de cette droite austère qui veut nous mettre un deuxième genou à terre. Quand je recommande, tout ça, ça va changer. Principale mesure, je la fais appliquer le premier jour de mon mandat. Cette mesure révolutionnaire, c'est... C'est après la pub. Smith & Wesson, partenaire officiel du Front de Gauche, vous propose, pour accompagner la campagne de Jean-Luc, le Smith & Wesson 44 Magnum, oui, celui de l'inspecteur Harry. Le 44 Magnum est l'outil idéal pour mener à bien la révolution. Puissant et sans pitié, il mettra un terme définitif au libéralisme et à tous ceux qui le défendent. 44 Magnum, le meilleur ami de l'homme. Et pour François Fillon, alors ? Français, me voilà débarrassé de toutes ces sales affaires qui, à ma femme et à moi-même, nous ont pollué la vie. Le combat pour reprendre en main notre pays est plus que jamais engagé. Et pour sauver ce pays que j'aime tant, j'ai une proposition à vous faire. Cette proposition, la voilà. C'est tout simplement... À tout de suite. Pour mener François Fillon à la victoire, Hexaconta est heureux de vous présenter son appli logiciel fiche de paye simplifiée. Une application simple et complète à la fois qui permet de ne jamais oublier un contrat ni la raison de l'embauche de vos employés. Avec le logiciel la fiche de paye simplifiée, vous ne serez jamais plus accusé d'avoir triché. Bon ben voilà, je sais pas moi, mais je trouve que c'est une bonne idée tout ça. À demain.
Merci.
Nagui sur France Inter.
Guillaume Canet est notre invité. Guillaume est en promo avec Rock'n'Roll, une promo d'ailleurs qui vous accueille avec plutôt bienveillance quand on voit les articles qui sortent, les critiques, et la tournée en province. Vous êtes plutôt rassuré par cet accueil. Vous aviez des doutes?
On a toujours un peu d'angoisse et enfin même beaucoup d'angoisse et de doute, ouais, mais en fait la tournée en France a été extraordinaire. On a eu un accueil du public, ouais, vraiment dingue, avec les gens qui étaient voilà très très chaleureux et qui ont beaucoup ri. On avait la chance de pouvoir se planquer dans la salle pendant les projos et d'entendre les gens rire aux éclats, et ça fait du bien.
Parce et que il rit aux endroits où vous attendiez que ça rit, où il y a des moments, oui, des rires qui vous ont surpris.
Ouais, il y a des rires qui nous ont surpris par moments, des trucs d'attitude, tout ça que l'on s'attendait pas. Et
quand vous êtes torse nu, par exemple.
Non, ça je savais que ça allait faire rire. J'espérais que ça fasse rire.
Pas tout ce travail pour rien, quand même.
Non, mais c'est extraordinaire, c'est drôle, c'est osé, y compris la campagne de pub, c'est-à-dire faire des affiches où vous barrez vos noms, vous rajoutez des seins à Marion Cotillard au lit, vous mettez une tête d'Iroquois sur la vôtre, c'est briser l'image même sur celle de Johnny aussi. J'ai vu des teasers des colonnes Maurice. Ouais. C'est-à-dire vous allez au bout du délire.
Ouais, là, vandaliser les
c'est ça. Taguer avant affiches, même que ça soit fait.
Ouais, c'est ça. Le faire nous-mêmes, en fait.
Eh ben, on va sortir de cette promo de Rock'n'Roll. Le film sort le 15 février, mais maintenant, c'est le brouillon de culture de Leïla Kadour-Boudetti.
Guillaume Canet, je vous sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un premier son pour vous.
On était en CM1 ensemble, on est du même bled. On est de plaisir dans les Yvelines. Et on allait à l'école Jean Moulin ensemble. Lui jouait beaucoup au foot dans la cour. Moi, je parlais aux filles, je crois. Et on rentrait de l'école ensemble. Il avait un sac, il avait un cartable Tatton Tans. Et là, un souvenir d'un petit garçon assez jovial. Et on avait fait même du catéchisme ensemble. Et on a passé notre première communion ensemble. Et on se voit pas souvent, on se voit pas assez d'ailleurs. Faudrait qu'on se parle un peu plus. Mais c'est impudique.
C'est votre compagnon d'école, Jean Dujardin.
C'est vrai.
Est-ce qu'avec le cinéma, on perd un peu de pudeur? Il parle de vous il parle de lui aussi comme ces hommes de cette génération, nés en 72-73, comme étant des gros pudiques. Est-ce que vous sentez juste ce...
Moi, je me sens pas. Je me sens pas vraiment pudique. Non, ouais. Je pense que je vais l'avoir prouvé.
Mais dans le film, mais c'est encore autre chose. Le film.
Non, mais vous avez peut-être bravé cette pudeur dans le film.
Il y a un truc. Mais bon, c'est pas de la pudeur, mais c'est plutôt de. Je suis quelqu'un qui je suis un peu un ours en fait. J'ai besoin d'un peu de ma solitude, d'être dans mon truc. C'est vrai qu'il dit qu'on se parle pas souvent, on s'appelle pas, on se voit pas souvent, mais c'est un peu comme ça avec beaucoup de gens en fait. Moi j'aime bien avoir mon petit truc.
C'est pas vous qui déclenchez les rendez-vous, c'est autour. Ouais, on vous invite, mais vous penserez pas à rappeler quelqu'un au bout de trois semaines à moi quoi.
Non, pas forcément.
C'est vrai. On poursuit avec un autre son.
Je reviendrai. C'est
connais par cœur.
Même moi. Reviendrai sûrement pas.
Ouais, c'est juste. Hein.
Vous l'avez reconnu, Guillaume Canet, il s'agit
De coup de tête, Jean-Jacques Hano, c'était Patrick Devers qui se fait virer de prison.
Vous l'avez reconnu au bruitage, avant même qu'il y ait le dialogue.
Ouais, je connais le film par cœur.
Incroyable. Non, mais là, vous entendez le vent, la porte.
La porte de la prison.
Impressionnant.
Ouais. Patrick Devers, l'une de vos icônes, dans Les Valseuses, La meilleure façon de marcher, Série noire, enfin, il y a tout un panthéon personnel, je crois, autour de cette figure-là. Et là, c'est l'une de vos répliques cultes. Pourquoi c'est une réplique culte pour vous, là, dans le coup de tête ?
Bah, d'abord parce que c'est l'écriture aussi du film qui était formidable. Et moi, j'aime beaucoup les comiques de situation, en tout cas, et la crédibilité dans l'humour. C'est ça qui me fait rire. Et d'avoir cette espèce de microcosme, cette village qui vont chercher en fait le mec parce qu'ils ont besoin de lui pour le match de foot, alors qu'ils l'ont foutu en tôle en lui mettant sur le dos un viol qu'il a pas commis, et que finalement ils viennent le chercher en pleine nuit parce qu'ils ont besoin de lui pour jouer le lendemain au match, et que le mec dit oui mais non, moi je préférais quand même la lettre du juge avant de sortir. Il dit non, ça suffit, maintenant vous sortez. Et puis finalement c'est contraint et forcé qu'ils le mettent dehors, et de voir un mec se faire foutre dehors d'une prison, qui se retourne, qui tape dans la porte, il dit je reviendrai, et le mec qui ouvre le petit gilet, qui fait sûrement pas, et qui referme.
Ouais, c'est pur malade.
Au niveau de l'écriture, c'est tout ce que j'aime, quoi.
Est-ce qu'il y a des rôles comme ça dans l'histoire du cinéma dans lesquels vous seriez bien vu par fantasme?
Celui-ci carrément, là, ouais. C'est un personnage tellement génial, le revirement de situation, comment derrière il va tous les faire payer. C'est un rôle formidable. Après oui, dans l'histoire du cinéma, il y a tellement de rôles que j'aurais adoré interpréter, mais parce que aussi j'aime les acteurs qui les ont interprétés, donc je sais pas si j'aurais été vraiment capable de les égaler, quoi. Mais des mecs comme Daniel Day-Lewis, il a fait des personnages, il a joué des personnages incroyables.
Et est-ce que c'est un avantage d'être metteur en scène, d'écrire ces films, et finalement de se servir en se proposant soi-même des rôles? Est-ce qu'on finalement, dans l'imaginaire, on est pour soi aussi bon que quelqu'un pourrait l'être pour vous?
Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est un beau cadeau que je me suis fait là, en tout cas, sur ce film-là. C'est vrai que je pense que j'en avais aussi envie. Mon idole, c'était pas prévu du tout que je joue dedans, mais là, il y a un moment où j'ai eu envie de m'écrire un joli rôle. Alors, est-ce que
Il y a un personnage comme ça que vous auriez envie de vous écrire, un rôle? On a parlé tout à l'heure de votre année gendarme-tueur du rôle de Maurice Agnolet. Est-ce qu'il y a un type de personnage que vous avez encore jamais incarné et dans lequel...
Il devient producteur. Ils sont devenus producteurs de films de cul.
D'accord, mais vous le jouerez ou pas?
Ah, je vais le jouer, je vais le jouer. Mais je ne l'ai pas écrit, c'est Cédric Anger qui a écrit le scénario.
D'accord.
Mais... en tout cas, j'ai pas quelque chose en tête là de prévu, mais en tout cas, je sais que l'exercice là de m'être offert un rôle, c'est quand même assez plaisant, et surtout de jouer sous sa propre direction, de se lâcher totalement. On sait qu'on a les rênes du truc, et que à la fin, on va pouvoir aussi au montage, si ça va trop loin, contrôler certaines choses. Donc
Et le recul sur l'écriture, comment l'avoir quand on écrit quelque chose et qu'on le réalise? Le recul sur la réalisation, comment l'avoir, sur se dire c'est un bon plan, c'est un mauvais plan, il a bien été cadré, et sur le jeu.
J'ai été secondé, en fait. J'ai eu vraiment avec moi et Philippe Lefebvre et Rodolphe Logard, en fait, qui sont mes deux potes, qui me connaissent bien, qui entendent ce qu'on racontait sur moi, qui me disait mais tu sais, les gens des fois ils pensent ça de vous. Et donc du coup c'était de l'information très importante. Et Rodolphe Loga, qui est cadreur aussi sur mes films, c'était mon premier public, et donc c'était intéressant sur le plateau aussi d'avoir son rire ou pas en fonction des scènes, et d'en discuter. Et c'était il y avait une distance qui était importante.
Dernier son et on passe au cadeau.
C'est ma vie qui me semble, c'est ta vie qui me semble, c'est ma vie qui me semble, c'est ta vie qui me semble.
Un nouvel album qui arrive là.
L'âme, c'est tout. L'âme, c'est tout.
On était parti au Mali avec Mathieu
Chédid,
pour tourner le clip de cette chanson, en fait. Et c'était un moment important. Je suis très fier d'avoir fait ce clip parce que c'était la bascule, en fait. C'était le moment où il a décidé d'arrêter d'être M et d'être Mathieu Chédid. Mm-hmm. Et on a fait ce clip où le Mali et la présence au Mali et tout ce qui revivait, de se trouver en fait une nouvelle identité. Et il y avait, on a joué, je crois que c'était à Amiens où il a joué, et il a enlevé en fait
lunettes,
enfin il y avait la coiffure en fait qu'on avait fait en casque comme ça. Oui. Et il enlève et il se frotte les cheveux et il devient lui-même. Et donc c'était un moment assez important dans sa vie. J'étais fier et content d'en faire partie. Et voilà.
Et ça circule rencontre entre vous parce que il a composé la BO de Ne le dis à personne.
Il est venu faire une guitare là sur sa plane pour moi justement sur la BO.
Il vous a fait chanter les chœurs. La BO, c'est Yodelis sur Hold Up.
C'est ouais. Yodelis aussi qui a fait la BO.
Il jouait dans les petits mouchoirs aussi.
Et vous l'avez fait jouer dans les petits mouchoirs.
Il est venu. Moi, je suis venu jouer. Par exemple, dans les arènes de Nîmes, il m'a fait ce truc de me faire rentrer tout seul, guitare-voix, et je me faisais de l'huile. J'étais complètement en panique à l'idée de faire ça. Mais on a vécu des trucs hyper importants. Mais le truc le plus dingue que j'ai vécu avec ce type, c'est que je l'ai rencontré un vendredi. Je lui ai demandé s'il voulait bien faire la musique de mon film. Il m'a dit « Ok, je suis libre lundi ». Et en fait, je lui ai projeté le film le lundi. Il était avec une baryton basse, avec une guitare, avec un ampli et son rack de pédales. Et il a, avec Olivier Lude aux commandes, et il a composé la musique de film en 2 heures.
En regardant les images.
En regardant le film en direct. Il a composé le film. Et moi, j'ai vécu un truc vraiment de pur génie. Je l'ai arrêté une fois sur la musique de la poursuite sur le périph, où je lui ai dit non, parce que là, il partait dans un truc très, très poursuite, très action. Et je lui ai dit, tu sais, en fait, il court pas parce qu'il a les flics derrière lui. Il court parce qu'il a rendez-vous à 17h au parc Monceau avec sa femme. Et donc, il me fallait une note d'émotion, un truc. Il a dit, OK, vas-y, repars. C'est le seul moment où on s'est arrêté. Le lendemain, on a rajouté juste des violons. Et ce qui est dingue, c'est qu'en sortant de là, la projection, il y avait un type à l'époque de chez Europa qui bossait, qui n'y bosse plus, et on comprend pourquoi, qui m'a dit, vous perdez des spectateurs avec cette musique de merde. J'ai cru que j'allais l'emplâtrer. Et la musique de merde a gagné les victoires de la musique, le César de la meilleure musique. Et ça a été un moment de partage et de communion. Ça a été extraordinaire.
Et je finis avec un cadeau pour votre personnage, le personnage de Guillaume Canet dans Rock'n'Roll. C'est un bouquin qui s'intitule « Votre Kama Sutra, inspirez vos désirs », signé Corinne Bongrand et Léonard Anthony aux éditions Pocket. C'est une édition illustrée du Kama Sutra. La couverture est très très belle à l'intérieur, c'est du noir et blanc, mais ça laisse aussi l'occasion de colorier. Alors non pas pour les enfants bien entendu, puisque les positions sont somme toute assez démonstratives.
Explicite.
Avec quelques phrases, quelques mantras pour indiquer que la sexualité peut aussi être spirituelle.
Attends, je
Nagui se rince l'œil au passage quand je vais. C'est très beau, c'est une très belle illustration.
Je vous encourage tous,
ces deux auteurs.
Je vous encourage tous.
C'est toujours très gênant quand t'as une très belle fille qui t'offre un bouquin comme ça.
C'est pour ça qu'il y a des pages collées.
Et je vous encourage tous à regarder le journal de 20h samedi, puisque Leïla Kadour-Boudadi va recevoir Guillaume Canet après la lecture, donc il la verra pas du tout du même œil.
Donc nous pourrons essayer en direct la fleur et quelques exercices.
Le plateau est assez simple,
c'est ça.
On le visualise.
Rock'n'roll, on l'a dit tout à l'heure aussi.
Merci beaucoup.
Il s'agit de beaucoup d'humour, mais aussi de ce regard sur la crise de la quarantaine, Daniel Morin.
Oui.
Cette crise peut toucher tout le monde, même ceux qui paraissent à l'abri et à l'écart de cette crise.
Mais merde!
Quoi?
Arrêtez, vous allez me rendre godin, comme on dit chez les jeunes toxicomanes. Votre lucidité me fascinera et m'étonnera toujours, monsieur Guy. Et pourtant, Dieu sait que la quarantaine est une période de vie que vous avez dépassée depuis hyper longtemps. Enfin, quand même, la sénilité n'est pas une raison suffisante pour dire autant de conneries. En tout cas, en ce qui me concerne, ayant fêté mes 39 ans la semaine dernière, j'aborde cette partie de mon existence avec beaucoup de sérénité. C'est en tout cas que je me disais ce matin, et ce que je disais au réveil matin en enfilant mon jean baggy, mon t-shirt hashtag lol, et en écoutant Maître Gims. Moi, ma quarantaine sera sereine, j'en suis persuadé. Pourquoi? Parce que je suis déjà passé par tous les affres de la crise de la quarantaine, et ça, hyper jeune. Oui, à 23 ans, je me suis dit un matin, putain, je suis vieux, mais c'est pas une raison. Merde, je vais quand même pas rester toute ma vie avec ma gonzesse qui, déjà aujourd'hui, n'est plus très fraîche du haut de ses 22 ans. Non, il me faut une nana plus jeune. Je suis sorti avec sa petite sœur. ce qui m'a beaucoup rassuré sur mon pouvoir de séduction toujours intact. Et je peux vous dire qu'elle était plutôt fière, elle aussi, quand j'allais la chercher à l'école. Ouais. Au niveau du véhicule aussi, très très jeune, à 15 ans, la pulsion d'acquérir un bolide à sensation pour me débarrasser du côté pépère affiché par celui que j'utilisais. J'ai viré le guidon de ma mobilette que j'ai remplacé par un volant de Renault Fuego. J'avais une impression de puissance, je me prenais pour Bernard Tapie. Voilà, monsieur Guy, vous voyez bien qu'avec quel maestria j'ai maîtrisé très jeune les clichés du besoin de véhicule de frime et de la conjointe plus jeune. Je ne suis pas un cas unique. Comme quoi, on peut aborder la quarantaine en toute sérénité, ouais, s'épanouir au soleil de la maturité sans être menacé par l'ombre de la crise existentielle du quadra. Une fois encore, vous avez dit...
N'importe quoi.
C'est ça.
La bande originale, sur France Inter.
Une petite musique.
Voyant, il y a Faville, c'est aussi partie de la BO. Et puis il y a quand même le plus beau patin de l'histoire du cinéma entre Guillaume Canet et Marion Cotillard. Sur la musique de la
boue. Écoute la guitare derrière. Elle est extraordinaire.
Ça s'appelle Rock'n'Roll et ça sort mercredi prochain. Merci Guillaume d'être venu nous
merci
parler.
Merci infiniment, c'était très sympa.
Et bravo surtout pour le film.
Merci à vous.
Nous avons Philippe Bertrand maintenant pour les carnets de campagne, Philippe.
Oui, salut Nagui, salut les amis.
Salut Philippe.
Et Daniel, il fait pas 39 ans quand même.
Non, de carrière.
Il fait plus.
Oh, ouais, c'est ça. Voilà. De carrière.
Enfin, ça dépend le matin ou pas.
Oui. Je me reconnais
un peu. Philippe faire sa blague.
Non, c'est qui? C'est Pierre-Emmanuel.
Oui, bonjour Philippe.
Non, n'écoute pas Pierre-Emmanuel.
Pardon.
Je me reconnais dans Guillaume parce que comme lui, j'ai commencé très tôt, le cheval, la bascule. Je portais des vieux pulls. D'ailleurs, ma mère en achetait par kilo. Ils étaient synthétiques. Elle les mettait sur des cintres et quand je les portais, ça faisait des épaulettes.
Ça sent le vécu, tout ça.
Donc, c'est pour vous dire que je ne suis pas du tout rock'n'roll.
Ouais, merci, Johnny.
Ah, je vous en prie.
Bonne émission, Philippe.
Salut.
Bisous.
Bisous, ma Leïla.